Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Élodie est la maman de 5 enfants et elle a connu seulement 3 grossesses. Je vous laisse faire le calcul. Une première grossesse à l'âge de 20 ans, durant laquelle elle se sentait infantilisée par l'équipe soignante, et un accouchement qui lui a laissé quelques traces, et elle pensait donc que ce serait le seul et le dernier de sa vie. Finalement, elle connaîtra une fausse couche, puis une grossesse quelques années plus tard, ainsi qu'un accouchement physiologique. Si elle pensait cette fois s'arrêter là, son mari lui désirait une fratrie de 3 enfants comme il avait connu dans son enfance. Alors Élodie retombe enceinte, et c'est le choc quand le couple découvre qu'ils attendent des triplés. Un imprévu de taille qui apporte son lot de questions et de craintes niveau finances. Après le doute, Élodie comprend finalement qu'elle est OK avec cette nouvelle et elle se lance dans cette troisième grossesse avec un challenge. Aller le plus loin possible pour que ses 3 bébés ne soient pas trop prématurés. Dans cet épisode, Élodie nous raconte son évolution au fil de ses grossesses, son rapport au corps et notamment à son ventre qu'elle expose avec fierté sur les réseaux sociaux. Elle nous parle également de sa vie de maman de 5 enfants et de l'organisation qui va avec l'arrivée de ses triplés. Bonne écoute.
Bonjour Élodie.
Salut, salut.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Ça me fait plaisir.
Alors toi, tu es la maman de 5 enfants et tu as connu 3 grossesses parce que tu as eu tes triplés.
Oui, c'est ça.
Alors pour revenir un petit peu avant ton début dans la maternité, toi, est-ce que c'est un sujet auquel tu as toujours pensé, est-ce que tu as toujours su que tu serais maman, est-ce que c'est arrivé sur le tard?
Bah écoute, oui, alors vouloir être maman, ça a toujours été dans mes projets, pas forcément aussi tôt que ça, parce que je suis devenue maman, j'avais à peine 20 ans, donc c'était pas forcément prévu, on va dire ça comme ça, aussi jeune. Après, étant donné que j'ai rencontré mon mari, j'avais 15 ans, et que évidemment quand on a commencé à être en ménage, donc on était majeur parce qu'il a 4 ans de plus que moi, c'est ça qu'il faut aussi situer. Bah moi la majorité forcément, ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble, donc c'était pour nous une suite logique de devenir parents après s'être mis en ménage et autant d'années de couple quoi. Du coup forcément bah le bébé est arrivé dans l'année 2013 justement quand j'ai eu à peine 20 ans.
Donc toi, tu étais toujours à l'école ?
Non, j'avais arrêté, je terminais mes études, donc j'étais en peinture, bâtiment, donc je venais de terminer mon bac, donc pour moi c'était parti pour me lancer en fait dans la vie active, sauf qu'étant une femme, à l'époque, c'était pas forcément évident de trouver un travail dans le bâtiment en tant que femme, encore moins en peinture, donc il fallait bien se nourrir, il fallait bien trouver un emploi, donc du coup au final on s'est dit bah un bébé ça tombe peut-être bien, c'est peut-être le bon moment finalement. Et puis voilà, après 6 mois de notre premier petit, bah j'ai dû trouver un travail qui n'avait plus rien à voir du coup par contre. Donc parce que là c'était plus compliqué de trouver du boulot dans le bâtiment quoi.
OK. Donc il y avait pas de projet de poursuite d'études après ton bac.
Bah non, j'aurais aimé pouvoir aller parce que en fait comme on habite en Bretagne plus précisément dans le Morbihan, moi j'avais du travail qui m'était proposé sur les bateaux de le port de Saint-Nazaire justement en tant que peintre, mais comme mon conjoint voulait pas me suivre, bah j'ai fait un choix et je suis restée vivre dans le Morbihan par amour, donc forcément les choix s'offraient à moi comme ça quoi.
D'accord. Donc vous décidez de faire votre premier bébé.
C'est ça.
C'est arrivé tout de suite ou t'as dû attendre?
Alors non, pas du tout. C'est vrai qu'en plus, nous, quand on, à chaque fois qu'on a voulu un enfant, bah ça s'est fait dans le mois qui a suivi. C'est complètement fou. Après, on sait aussi que c'est surtout par rapport au fait que la contraception que nous on a, c'est le préservatif. Il n'y a pas de pilule, il y a pas d'implant, il y a rien. Donc évidemment, c'est plus facile, on va dire ça comme ça, d'avoir des enfants de cette manière-là. Donc Nathan est arrivé vraiment le mois qui a suivi qu'on s'est décidé quoi. Donc c'était très très rapide. Vraiment très rapide.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Alors, ça a été une grossesse vraiment super. C'est vrai que, pour le coup, pour un premier bébé, moi, j'ai eu une grossesse facile, pas malade, un petit ventre, mais pas, voilà, c'était pas exceptionnel, pas de vergeture. Bon, j'avais quand même pris 20 kilos, sachant que je faisais 47 kilos tout mouillé, donc ça me faisait quand même du bien de prendre du poids. Forcément, nous, on voyait pas que c'était beaucoup, 20 kilos, puisque de toute façon, quand on est maigrichonne, entre guillemets, voilà. Ça nous fait plus de bien que de mal. Et puis voilà, une grossesse super, vraiment rien à dire. J'ai adoré, j'ai trouvé même le temps bien, machin. Bon, à la fin, je pense comme toutes, on en a ras-le-bol, hein, on a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Mais non, dans l'ensemble, super. Par contre, un accouchement chaotique, quoi. Mais alors, qui donne pas envie d'en avoir d'autres, vraiment. Donc ouais. Pour un premier, j'estime que quand on a même pas 20 ans. Il faut avoir déjà du plomb dans la tête parce que pour passer par plusieurs épisodes comme une péridurale qui est ratée 3 fois, ça fait très 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 mal, surtout entre 2 contractions, donc c'est vraiment très compliqué. Moi j'ai eu que 8 heures entre les premières contractions et l'accouchement, enfin la naissance de Nathan. Donc c'est avéré que ça a été assez rapide pour une première grossesse. On estime que c'est assez rapide. Et en fin de compte, Nathan est arrivé très vite. Je sentais en fait que je pouvais plus contrôler mes contractions vu que je ne sentais plus rien avec la péridurale. Et en fin de compte, on m'a dit votre fils il arrive avec sa poche, donc on va devoir la percer, on va devoir appuyer sur votre ventre, etc. Et donc du coup, j'avais des douleurs mais qui me tiraillaient, il y avait des bips de machine dans tous les sens, je savais pas ce qui m'arrivait. Et en fin de compte, Nathan arrive d'un seul tenant et en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui a dû se rompre ou casser, je ne sais pas, mais j'avais très très mal à ce moment-là. Donc je hurle littéralement. On me dit en gros, c'est pas elle fait sa chuchote mais presque quoi, enfin faut pas crier à ce stade-là, c'est pas possible. Ok, donc on me met Nathan sur moi, on me dit que j'ai une déchirure vaginale, donc il faut recoudre là tout de suite. Bon, ok. Ensuite, on me soulève, on me met un coussin derrière le dos pour accueillir la tétée de bienvenue avec mon bébé. On regarde en fait finalement que le fil qui permet la péridurale était rompu, donc le liquide en fait n'allait plus du tout dans mon corps, donc je souffrais parce que je sentais tout en fait, mais ça c'était tellement peu courant qu'un fil se rompt à ce moment-là pour une péridurale que en fait pour eux c'était du cinéma en fait que je crie quoi. Donc sur ce moment-là, on se dit bon, il y a le bébé qui est là donc on sent pas trop, il y a les effets des médicaments et puis après en chambre infection urinaire, 42 fièvres, impossible de s'asseoir donc je comprends pas trop ce qui m'arrive. Alors on m'explique que c'est les tranchées donc moi les tranchées, je vois pas ce que c'est. On m'explique pas tellement, on me dit que c'est la montée de l'ex, c'est normal que j'ai de la fièvre et que j'ai mal, d'accord, ok. Et on me ramène chez moi 5 jours après avec rien, donc pas de médicaments, rien. Mais je peux toujours pas m'asseoir et pourtant j'allaite. Donc je me dis, ça va être compliqué, quoi. Donc j'allaitais allongée sur le côté, mais même allongée sur le côté, je souffrais. Donc je suis partie voir un ostéopathe au bout de 3 semaines qui m'a expliqué qu'en fait j'avais le sacrum déplacé. Donc il était à l'opposé de ce qu'il devait être, quoi. Donc que c'était une cata quoi, une vraie catastrophe quoi, et que j'avais bien fait de prendre ça en charge assez tôt parce que ça aurait pu déformer ma colonne vertébrale, enfin j'aurais pu être toute voûtée, puis avoir des complications quoi, et que en fait c'est dû à l'arrivée imminente de Nathan qui a fait forcing, qui a fait que sa tête a mis à l'envers en fait le sacrum quoi. Donc ça a été pour moi, c'était net que je n'en voulais plus. Je voulais plus d'autres enfants. J'ai fait un baby blues. Donc, parce que là, on se dit, on est jugé, on est montré du doigt quand on a à peine 20 ans. Donc, on se dit, c'est une enfant, c'est une femme enfant. Donc, elle aura pas les épaules pour savoir s'occuper d'un bébé, quoi. Donc, on est très maternisé. Alors qu'au final, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt à nous de materniser nos bébés, quoi. Donc c'est pas forcément facile quand on a des enfants jeunes, quoi.
Et c'est qui ? C'est les professionnels ou c'est ton entourage qui était
Non, alors pour le coup, ça a été vraiment les professionnels de santé. Je vois quand je suis arrivée, rien que pour l'accouchement, on est très maternisé. C'est la cocotte de la chambre, telle et telle et machin. Enfin, je me dis, en tant que femme, j'appellerai jamais quelqu'un, oh, la petite cocotte de la chambre, machin. Enfin, c'est très, ça fait très enfantin. On se sent pas du tout femme et très valorisée. Donc déjà, ça rabaisse un peu. Et ensuite, bon bah voilà, en fait, ils minimisent tout. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent pas vous expliquer ce qui va se passer, de peur de vous braquer ou que vous compreniez pas les termes, voilà. Et en chambre, ben on vous engueule comme une enfant. Vous avez pas noté les temps de biberon. Vous avez pas, vous vous rendez pas compte. Votre bébé il peut mourir si vous le nourrissez pas de telle heure à telle heure. Enfin, c'était, pour moi, c'était, je me faisais engueuler comme une enfant, quoi. Donc je trouvais ça ignoble en fait de se faire agresser. Et au retour chez moi, moi je me suis dit, je veux plus voir personne parce que si c'est pour qu'on me juge, c'est pas la peine. Et donc j'avais l'impression d'être une mauvaise maman et de pas savoir faire puisque Nathan ne savait pas boire au sein, donc il prenait pas de poids. Et j'avais une sage-femme de PMI qui venait justement à la maison et moi j'avais cette sensation qu'on venait chez moi pas par voilà parce que c'est comme ça que ça se fait mais parce que on venait me m'épier voir comment j'étais dans mon rôle de mère et j'avais pas cette sensation d'être épaulée ou suivie mais d'avoir plutôt l'impression d'être surveillée quoi. Donc c'était quelque chose vraiment de très désagréable et donc bah vient avec ça le baby blues quoi parce qu'on se dit bah on congère pas, on a mal, on est fatigué. Puis on n'y arrive pas en fait. Donc bon, j'ai de la chance, ça a pas duré très longtemps parce que je m'en suis rendu compte assez vite. Au bout d'un mois, un mois et demi, je voyais bien que il y avait quelque chose qui allait pas parce que on a un bébé mais on pleure, on a l'impression qu'on n'est pas heureux alors que on l'a attendu 9 mois, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas quoi. Donc heureusement pour moi, j'ai un mari qui était très très présent et qui faisait tout pour m'épauler. Donc j'ai vite remonté la pente sans avoir besoin de voir quelqu'un. Mais c'est vrai que voilà, après cet épisode-là, moi, on a quand même attendu 4 ans, presque 4 ans, avant de vouloir un deuxième, parce que moi, j'étais pas prête, quoi. Psychologiquement, je voulais plus, quoi. Je trouvais que j'avais trop peur que ce soit encore plus douloureux que ce que j'avais vécu, quoi.
Parce qu'après, ils t'ont remis en place, du coup.
C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai eu 3-4 séances d'ostéopathie avec des manipulations pour vraiment remettre dans l'axe, remettre bien. Donc c'est vrai que j'ai encore des sensations où si je reste trop longtemps assise, quand je me relève, c'est encore douloureux, quoi. Et pourtant, ça fait presque 8 ans, quoi. Donc c'est vrai que ce sera jamais. Je pense pas que ça reviendra. Comme c'était bien avant, parce que de toute façon, avec les grossesses qu'il y a eu déjà avec la grossesse triple, ça faisait choc avec le poids, donc forcément, il y avait toutes ces choses à prendre en compte, quoi. Mais oui, heureusement, ça s'est bien remis et je vis normalement avec ça, parce que ça aurait pas pu être possible, quoi. Ça aurait vraiment pas pu être possible.
Et alors, quel rapport avec ton corps tu as eu avant et après cette première grossesse?
Alors avant Nathan, bon bah j'avais un corps de jeune fille. On va dire ça comme ça, parce que quand on a 19 ans, voilà, on est à peine formé, on va vraiment dire ça comme ça, quoi. Et après, quand j'étais enceinte, moi, je voyais la maternité comme quelque chose de, on va prendre du poids, on va avoir des vergetures, ça me pose pas de problème. J'ai ma maman qui a eu 4 filles, ma grand-mère qui en a eu 3, elles ont eu leur corps qui a changé et elles l'ont très bien vécu, donc je pense qu'elles m'ont apporté ça aussi, le fait du regard par rapport à son corps qui est normal de changer quand on devient maman. Là où j'ai pas apprécié, c'est qu'en fait, comme j'étais la seule à allaiter autour des femmes de mon entourage, moi ma poitrine, je l'ai abîmée. Donc du coup, quand j'avais 20 ans, j'avais l'impression d'avoir une poitrine d'une femme qu'en avait 40. Des seins qui tombent, les ligaments abîmés. Je le vivais très très mal parce que je me disais ma poitrine elle est pas belle, je peux pas me montrer, je peux pas mettre de décolleté, on va voir que ça. Puis mon mari il va pas aimer ça. J'étais très 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 complexée face à ça parce que pour moi à 20 ans on pouvait pas avoir une poitrine comme ça quoi. On devait avoir une poitrine comme ça quand on a 40, 50 ans. Je voyais ça vraiment comme ça. Donc j'avais fait un complexe mais réel face à ça. C'était catégorique quoi. Après pour le reste, tout ce qui est vergeture, prise de poids, perte de poids, j'ai toujours fait le yo-yo, pas très haut en poids, mais ça m'a jamais rien fait quoi.
T'as fait quelque chose pour ta poitrine à ce moment-là ou
pas du tout? C'est-à-dire qu'en fait moi je suis grosse frileuse des hôpitaux, de tout ça, donc je préférais me dire tant pis. C'est pas grave, c'est pas beau, mais je vais pas le regarder, ça va bien se passer, de toute façon c'est comme ça. Donc je m'étais emmurée dans quelque chose où je préférais cacher la chose plutôt que l'accepter et puis même me dire que non, finalement c'est pas moche, c'est juste que moi on m'a focalisé pendant des années en me disant une poitrine à 20 ans c'est comme ça, ça doit être beau, ça doit être ferme, ça doit être joli, ça doit faire un joli creux sur un décolleté, alors que moi j'avais un écart, ça tombait, donc voilà, moi je m'étais mis ça en tête.
Et comment t'as fait pour petit à petit accepté cette nouvelle poitrine?
Alors, je l'ai pas accepté avant presque la naissance des triplés, hein. Tout est venu d'un seul tenant avec les triplés, en fait.
Donc du coup, 4 ans plus tard, vous décidez de faire un deuxième enfant. Oui. Comment t'as mûri, toi, cette deuxième grossesse pour finalement accepter? Tu disais que t'en voudrais plus après le...
Déjà, je pense que ce que j'ai pas dit, mais que vraiment je dois dire, c'est que entre Nathan et Alyssa, il y a eu une fausse couche. Donc, j'ai perdu un bébé à 8 semaines. Je pense que quand on se projette dans l'idée d'avoir un bébé, peu importe quand on le perd, c'est un drame. On voit ça comme une perte d'un enfant et pas un fœtus ou un embryon ou quoi que ce soit. On voit vraiment ça projeté comme un bébé. Et moi, je l'avais très mal vécu et je voulais plus, quoi. Je voulais faire pause, c'était terminé. Je me suis dit, il y a eu l'accouchement qui avait été compliqué, la fausse couche qui m'avait détruite, et mon mari m'avait dit « si on attend, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à avoir un autre. » Donc, on va dire qu'à partir du moment de la fausse couche...
C'était au bout de combien de temps, la fausse couche, après l'arrivée de ton premier?
Du coup, c'était 3 ans et demi. Donc, on a attendu le laps de temps du retour de couche pour pouvoir, en fait, recommencer. Parce qu'en fait, on m'a dit « plus je vais attendre et plus je vais travailler ça et je vais voir noir toute ma vie, donc c'est pas la peine ». Et donc je suis tombée enceinte, comme je disais, très vite. Donc dès qu'on a décidé d'avoir un bébé, ça a pris. Donc pour Alyssa, ça a été du coup pas une grossesse évidente non plus, quoi. Donc ça a mûri parce que je me suis dit je veux pas qu'ils aient trop d'écart parce que 4 ans, ça reste quand même un écart. J'en ai 6 avec mes sœurs à chaque fois. Et je me dis plus il y a d'écart et plus c'est difficile d'avoir de la communication, de s'entendre parce qu'il y a trop d'écart d'âge, donc on peut pas jouer pareil quand on est trop grand par rapport aux autres. Donc du coup, c'est vrai que ça a fait mûrir l'idée qu'il fallait pas attendre trop longtemps pour avoir un deuxième. Donc on a remis ça tout de suite après la fausse couche. Donc Alyssa est arrivée quand Nathan avait 4 ans, quoi.
Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse?
Alors, cette deuxième grossesse, elle a été compliquée parce que pas sur le plan bébé, parce qu'elle évoluait très bien, il n'y avait aucun souci chaque mois. Mais moi, en fait, je faisais une fixette psychologique qu'il pouvait tout arriver. En fait, je voyais tout le temps quelque chose de grave. Je la sens plus, c'est que son cœur s'arrêtait de battre. J'ai mal au ventre, il y a quelque chose qui va pas. Donc, en fait, j'étais complètement stressée pendant 9 mois en voyant tout le temps noir tous les mois, en me disant quand il va y avoir les tests de trisomie, est-ce que ma fille va pas être trisomie? Enfin des choses comme ça, je voyais tout le temps ça, alors que pour Nathan, c'est pas si j'étais pas dans une bulle, mais je m'étais pas mis ça en tête que ça pouvait m'arriver, quoi. Parce que la fausse couche, nous non plus, on était à 10 lieues de se dire que ça pouvait nous arriver, quoi. Donc je pense que quand on se met des œillères, on voit pas forcément tout ce qui y va autour, alors qu'en fait ça peut arriver, quoi. Et du coup Alyssa, c'était une grossesse qui, sur le plan bébé, ça s'est très bien passé, mais psychologiquement, non, ça allait pas du tout, quoi. 9 mois, très 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 long, mais c'était long. J'avais qu'une hâte, c'était qu'elle soit là, que je l'ai dans mes bras, que tout se soit bien passé, et qu'elle soit en bonne santé, enfin que tout aille bien, quoi.
Et t'appréhendais l'accouchement?
Ouais, c'est-à-dire que déjà, je voulais pas de péridurale. Moi, je m'étais dit, on m'a loupé 3 fois, quitte à souffrir le martyre, je veux tout gérer. Je veux tout contrôler. Au moins, je sais que si j'ai mal, c'est moi, c'est mon corps, et voilà. Donc, c'était un peu mon projet de naissance. C'est vrai que je suis arrivée là-bas en leur disant, moi, je veux pas de péridurale, je veux accoucher naturellement. Donc, je suis tombée sur une équipe vraiment géniale qui m'a dit, on vous suit de A à Z et puis on vous accompagnera comme il faudra sur ce que vous voulez faire. Donc jusqu'au bout pendant le travail, parce que le travail a duré quand même presque 18 heures entre les premières contractions et l'accouchement, parce que je savais plus quand y aller. Donc je savais plus si c'était des contractions de travail ou si c'était des contractions juste de pré-imminentes, quoi. Et au final, quand c'était à 7 de dilatation, la sage-femme m'a dit vous êtes sûre que vous voulez pas de péridurale? Non, c'est bon, j'y vais à fond. Et j'ai paniqué, en fait, au moment où je me suis rendu compte que si je pouvais plus faire machine arrière, si j'y arrivais pas, c'était foutu, quoi. Donc je regardais mon mari, je lui disais non, je veux la péridurale, j'ai peur. Et du coup, elle est revenue en catastrophe. Elle me dit ça va pas être possible parce que elle est là, quoi. La tête est là et vous allez y arriver. Alors moi, j'étais là, ok, en panique totale, en me disant c'est bon, j'ai plus le choix, ça y est, quoi. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que ça n'a rien à voir avec une péridurale, parce que la péridurale, on vous dit qu'en pousser parce qu'on sent rien. Et en fait, là, on sent que c'est bête à dire, mais c'est comme quand on va aux toilettes, quoi. On n'est pas bien, on a mal au ventre, on sait que c'est en poussant que ça va, on va se rassurer, que ça va aller mieux. Et ben, c'est exactement la même chose, mais bon, pas au même endroit pour le coup. Mais ça fonctionne super bien, quoi.
Et alors la rencontre avec ta fille.
Alors ça a été fou parce qu'elle est arrivée donc en l'espace peut-être je sais pas peut-être une demi-heure. Ça a été très rapide. Hein, on l'a poussée et puis l'arrivée. J'étais tétanisée, c'est-à-dire que je l'avais dans mes bras et j'avais mon corps qui tremblait du bout des doigts de pied jusqu'à la tête. Et je regardais la sage-femme et je comprenais pas. Je sais qu'est-ce qui se passe. Je sais pas pourquoi je tremble comme ça. Et elle me dit bah c'est le contre-coup. Faut apprécier ce moment. Elle est là, elle va bien. Puis je savais plus en fait, j'arrivais plus à apprécier le moment parce que je me rendais compte en fait de ce que je venais de faire quoi. Donc j'avais réussi à mener jusqu'au bout mes idées, à y arriver, à pousser et à voir ma fille qui était là et qui allait très très bien quoi. Donc c'était magique, vraiment c'était super.
Et elle, du coup, t'as décidé de pas l'allaiter ?
Non, parce que pour le coup, la première expérience avec Nathan, comme il n'avait pas su savoir téter, j'avais trop peur de pas gérer ce moment-là. Et la montée de lait ou tout ça, ça me faisait pas peur, mais j'avais plus peur de pas savoir l'allaiter, quoi. Parce qu'on te donne des techniques différentes à chaque fois. Et moi, j'avais eu crevasses, les seins qui saignent, etc. Donc bon, stop, je voulais pas revivre ça, quoi. Donc je m'étais dit, on va faire comme ça. À la classique, boîte de lait, c'est bon, papa il pourra gérer ce moment-là aussi et au moins je sais que je pourrais m'appuyer sur lui aussi parce qu'il y avait Nathan quoi. Donc je me disais il y a pas qu'un bébé cette fois, il y a aussi le grand et il faut pas le mettre de côté, il a que 4 ans. Donc non, cette fois-ci c'était pas d'allaitement.
Et toi tu avais grandi du coup, t'avais 24
c'est
ans.
Ça.
Est-ce que t'as senti un autre regard vis-à-vis des professionnels ? Est-ce que toi tu t'es sentie plus à l'aise aussi, plus confiante ?
Ouais, alors j'ai imposé mes idées clairement. C'est-à-dire que à 24 ans, avant avoir vécu, pour avoir vécu la post-couche, ça met un peu de plomb dans la tête parce que la situation, on va dire, dans laquelle on l'a vécu la post-couche a été vraiment très très dure pour nous, très dramatique, que ce soit dans notre couple ou comment ça s'est passé. Donc on va dire qu'on s'est forgé un caractère plus dur. En se disant, on a le droit de dire quelque chose aussi. On a le droit de dire ce qui va pas. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Et alors qu'avant, on avait plutôt tendance à se dire à 20 piges, c'est eux les médecins, c'est eux les professionnels, donc chut. Voilà, c'était comme ça qu'on voyait les choses. Or, au jour d'aujourd'hui, faut quand même communiquer, faut quand même montrer aussi que notre voix elle compte. Et j'avais quand même pris une assurance face aux professionnels qui étaient complètement différentes de la première fois, quoi.
Mmh. Et le retour à la maison alors avec deux bébés cette fois, enfin un petit garçon un bébé.
Alors c'est vrai que le retour à la maison ça a été plutôt cool au départ parce que c'est vrai que Nathan on l'avait préparé mentalement vraiment à cette arrivée du bébé parce qu'on voulait pas le mettre de côté, on voulait lui montrer qu'il avait toujours sa place. Donc il était vraiment dans l'accompagnement, j'aide maman à mettre le bavoir ou donner le biberon, etc. Donc c'était très doux, très mignon. On le voyait dans ses yeux qu'il était fier en fait d'être grand frère et qu'il se sentait pas on lui volait pas sa place quoi. Il était vraiment super fier quoi. Donc ce retour à la maison était vraiment génial quoi. Nous on a adoré quoi. C'était vraiment super.
Pas de baby blues cette fois-ci.
Pas cette fois. non cette fois-ci ça s'est super bien passé. Pour le coup c'était vraiment c'est la grossesse je pense qui m'a plombée par la peur et puis en fait après on prend l'assurance parce que le bébé il est là, on est maman et il faut avoir les épaules, c'est pas eux qui nous portent, c'est vraiment nous qui devons les porter donc ça s'est super bien passé.
Et alors à quel moment vous décidez de faire un troisième bébé ?
Alors troisième bébé c'était pas du tout dans mon esprit. Moi je voulais m'arrêter là, je voulais juste deux enfants, je trouvais ça juste super, j'avais mon petit garçon, ma petite fille, elle avait 2 ans, je disais que c'était parfait, c'était très bien, plus qu'une année et puis elle repartait, elle allait à l'école donc je me disais c'est parfait, ça va être super. Mais mon mari, lui, il est dans une fratrie où ils sont, ils sont 3. Et pour lui, dans son esprit de famille, il fallait un troisième. Et il a vraiment voulu mettre toutes les cartes sur la table pour me montrer que si tu verras un troisième, c'est génial. Alors que moi, à l'opposé, l'aînée de 4 filles, j'avais ce rôle où j'épaulais ma mère et je devais l'aider. Et j'avais pas envie de faire subir ça à Nathan, quoi. Donc j'avais pas envie de lui dire t'es grand frère donc tu vas devoir m'aider à faire ci à faire ça parce que vous êtes 3. Donc c'était pas dans mon esprit au départ. Et en fait, il me disait, ouais, mais tu vas voir, après 30 ans, 35 ans, il y aura beaucoup d'écart si jamais tu veux un troisième. Donc, j'étais là, ah ouais, non, après 30 ans, moi, je veux plus d'enfants, quoi. Donc, et ça commençait à trotter. Je voyais Alissa qui grandissait et puis j'avais envie encore de pouponner. Donc, je me suis dit, bon, allez, je craque. On va faire ce petit troisième, mais c'est le dernier, je te préviens. Il y en aura vraiment pas d'autres. Donc, on s'est lancé et je suis tombée enceinte, bah, pareil, tout de suite, quoi. Mais tout de suite.
Et alors, écho de contrôle, la première échographie.
C'est comment déjà, pour mettre en situation, je savais que j'étais enceinte avant même le retour des règles, parce que j'étais très malade. Mais alors, malade, je me suis jamais vue comme ça. Je vomissais toute la journée. Donc je me suis dit c'est pas possible pour être malade comme ça, c'est que ça doit être des jumeaux, enfin pour être autant mal. Donc je me suis dit bon, il y en a dans sa famille, il y en a dans la mienne, c'est probable qu'on puisse avoir des jumeaux, quoi. Donc je lui fais, en plus pour lui faire la surprise d'être enceinte, parce que évidemment je fais 3-4 tests et je fais à peine pipi dessus, ça marque positif. Donc bon, dans ma tête je me suis dit c'est sûr il y en a deux, parce que c'est quand même incroyable de pas attendre 5 minutes et de voir 2 traits s'afficher, et en plus de ça de pas avoir attendu le retour des règles, quoi. Donc je me suis dit le taux d'HCG doit être il doit exploser, quoi. Donc bon, je me suis dit c'est des jumeaux. Donc pour lui faire la découverte que j'étais enceinte, je lui ai fait une charade sur un bout de papier avec le test caché dans une boîte. Donc déjà il m'a dit bon bah c'est parti, quoi, voilà, super, t'es enceinte, ouais, mais bon, je suis quand même bien malade, ça fait un moment que je te le cache, mais bon, là, je suis pas bien. Donc, on prend rendez-vous, deux semaines après, je lui dis, tu viens avec moi, parce que j'avais très peur, pareil, de refaire une fausse couche, ça me hantait, de toute façon, à chaque fois que j'ai été enceinte, du coup, après la fausse couche, j'étais complètement habitée par le fait que je puisse encore me retrouver devant cet écran et de voir un bébé, avec un cœur qui s'est arrêté. Donc moi c'était pas possible, quoi. J'avais dit il faut que tu sois là, faut que tu me tiennes la main, parce que je veux pas vivre ça toute seule. Et donc j'étais très angoissée. Donc moi je partais dans l'optique que je pouvais me retrouver avec une écho où il y avait pas de cœur qui battait, quoi. Ça c'était juste en fait ce sur quoi je m'étais focalisée en allant là-bas. Et en fait donc il me dit voilà, donc vous êtes probablement enceinte là de 3 semaines, oui, ok. Bon, on va aller faire une écho, hein. Ouais, bon. Et vous vous sentez comment? Malade, très très malade. Bon, vous êtes enceinte, quoi. Ouais, voilà, bon, on va aller voir ça. Donc, je m'allonge. Évidemment, il passe par voie vaginale. Donc, du coup, il regarde. Et puis, directement, en fait, on voit deux taches noires. Donc, directement, sans qu'il dise quoi que ce soit, je me suis doutée qu'il y en avait deux. Donc, il dit, il y en a deux. Alors, je regarde mon mari, je lui dis, tu vois, je le savais. Donc il rigole, il est mort de rire parce que il aime bien avoir me tenir tête en disant mais non, il y en aura pas deux. Donc là j'étais fière de moi. Sauf que là le gynéco balade la sonde de gauche à droite un peu, c'était très désagréable, mais je voyais bien qu'il était inquiet et je me suis dit là il y a quelque chose qui va pas. Il dit rien. Et puis là ah ouais mais là il y en a un troisième là. Il y a un troisième là. Et là je sais plus quoi dire. Je le regarde. Je regarde mon mari. Je regarde le gynécologue et je lui dis « Mais vous vous foutez de ma gueule ?» Et je fais « Enfin, je fais pas bon, excusez-moi !» Et donc, il me dit « Ah, je rigole pas avec ça !» Puis je fais « Non, vous rigolez !» Ah non, non. Je regarde mon mari, il me regarde, on se dévisage comme si on allait se pourrir. On était là « Mais qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ?» Enfin, on avait la sensation qu'on avait fait une bêtise. On se regardait l'air de « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Alors que c'était arrivé là, voilà. Alors il me dit voilà, le gynécologue se remet tout de suite plus dans la surprise, mais il nous dit voilà, ça se trouve il y en a un qui a pas évolué ou il y a peut-être pas de cœur, c'est peut-être juste une poche vide, donc je vais vérifier. Donc il regarde, il fait non, il y a bien 3 bébés et les cœurs battent tous les 3 et ils évoluent tous les 3 pareil, quoi. Et en fait c'est pas vrai. Donc on se dit qu'est-ce qu'on fait? Rhabillez-vous et puis je vais vous parler de tout ça après dans mon bureau. D'accord, super. Alors il me regarde et puis il parle pas. Mon mari parle pas. Je lui parle pas non plus. Je me rhabille et je suis en train de cogiter. Je réalise pas encore qu'en moi, il y a 4 cœurs qui bat. Je réalise pas encore. Donc, je m'assois après au bureau avec mon mari. Puis, il nous dit, là, on n'est plus dans les faits, waouh, on est dans les faits un peu, médical, clairement, et où il nous explique qu'il existe la réduction embryonnaire. Alors, pour nous, ça n'a aucun sens. On sait pas ce que ça veut dire. Mais il nous explique dans la lancée que c'est casse-gueule. Il nous dit voilà, c'est quelque chose de casse-gueule, faut le savoir, vous pouvez tous les perdre ou alors voilà, en plus on prend le premier qui est accessible, c'est un peu hasardeux. D'accord.
Donc c'est quoi en gros? C'est d'enlever un des des trois embryons.
C'est ça, ouais, c'est de faire une réduction d'un embryon. Pour du coup retomber à des jumeaux plutôt que des triplés, quoi. Alors sur le moment on se dit oui, bon bah pourquoi pas, enfin du moins on se dit pas clairement que c'est non ou que c'est oui. Dans tous les cas on nous dit juste les possibilités, et après il nous explique qu'on a que une semaine pour se décider, quoi. Donc on se dit ah ouais, donc là c'est quand même court sur ce qui nous arrive. Donc on nous balance toutes ces infos là, on sort de là, on va payer la secrétaire qui nous dit félicitations. Alors nous on est là, merci, on rigole jaune, on se regarde tous les deux dans le couloir, on est mort de rire, on sait plus. Florian, je fais non mais il y a une caméra cachée, c'est pas possible. Tu rigoles. Je dis qu'est-ce que t'as fait là? Il fait bah je sais pas, je crois que là on a mis le paquet. Je dis ouais, je crois que là on a mis tout ce qu'il fallait, quoi. Puis on arrive dans la voiture et on devait aller récupérer nos deux enfants. Et en fait, je me mets à pleurer parce que je me rends compte que je sais plus si je suis contente ou pas, quoi. Parce que on commence à réaliser que la voiture, elle suffit plus, que la maison, elle est encore en travaux, donc on n'a pas la place pour accueillir trois bébés, mais pas trois bébés d'un coup. Et en fait, moi, sur le moment, je réalise pas que le côté matériel prend une place en fait démesurée sur tout le reste. Mais mon mari, oui, c'est-à-dire que lui, il voit le côté financier et réaliste, et moi, en fait, je suis dans le bah j'ai trois bébés en fait. Enfin je vois ça comme ça. Et du coup on arrive à la maison. Bon bah moi j'étais malade. Enfin voilà quoi. On passe par toutes les émotions parce qu'on est euphorique parce que ça nous arrive à nous. Surtout que c'est une grossesse naturelle donc c'est encore plus rare. Pour le médecin c'était quelque chose de merveilleux et nous en fait on était inquiets parce qu'on s'est dit bah comment ça va se passer. Et donc en fait quand on regarde sur internet on trouve rien. Sur la grossesse triple, c'est très très hasardeux. Il y a rien à part des témoignages de parents. Donc sur le plan médical, on va pas avoir un dossier grossesse triple. Ça va se passer comme ça, ce sera comme ça. Bah non. Donc sur le.
Et alors.
Sur le moment, donc on regarde ce que c'est la réduction embryonnaire. Évidemment, on dort pas de la nuit parce que on doit faire un choix. Et en fait, on se rend compte que non, on peut pas faire ça. Moi, je partais du principe, et mon mari était sur la même longueur d'onde que moi, que c'était tout ou rien. C'était soit on les gardait tous les trois, soit on arrêtait tout, mais on pouvait pas faire ça parce que on pouvait pas se regarder dans les yeux et se dire 15 ans plus tard, bah vous étiez peut-être trois. Est-ce qu'on aurait réussi à vous gérer ou pas? Mais normalement, il y a un troisième avec vous, et ça, on pouvait pas se l'avouer. Comme on disait, on comprend ceux qui font ça parce que voilà, il y a des situations familiales qui peuvent amené à faire ce choix, mais nous on pouvait pas, quoi. Donc du coup dans le week-end on s'est décidé assez vite en fait au final, parce que quand on commence à se poser le pour et le contre, on s'est dit allez, on va poser les pour, on va poser les contre. Ouais, mais non, en fait il y avait tout le temps des contre. Enfin le seul pour qu'il y avait, c'était en effet pour être parents et on sait qu'on va les aimer, mais ça suffit pas. Donc il y avait on n'a pas la poussette, c'est pas une poussette classique, donc ça va coûter combien. Enfin il y avait tout le temps ce côté financier qui revenait, et on se disait si on part du principe qu'on parle financier, ça sert à rien alors dans ces cas-là de continuer. Et dès qu'il me disait on arrête là, je me mettais à pleurer. Il disait non, c'est que si tu te mets à pleurer, c'est que tu sais très bien en fait au fond de toi que voilà, c'est pas possible d'arrêter là, quoi. Et donc au final, il y a eu un élément déclencheur parce qu'on a je pouvais pas garder ça pour moi, donc j'ai appelé mes grands-parents avec qui on a un lien très très proche, très fort. Et donc je leur annonce la couleur. Alors au départ, ils me croient mais alors pas du tout. Alors lui il a cru que c'était une blague, il m'a dit oui je te connais, tu dis que des conneries, donc je sais que c'est faux. Non, c'est pas drôle. Et donc en fait il me dit mais t'es jeune ma puce, t'as 27 ans, des bébés tu pourras en faire d'autres, c'est pas des bébés, c'est rien encore, c'est qu'une tâche sur un écran. Et en fait moi je me suis dit mais non, en fait, il peut pas me dire ça. Pour moi, c'est des bébés et clairement, je veux les garder. Et en fait, il m'a un peu poussé, en me disant, m'a forcé en fait dans mes convictions à me réaliser que oui, si, bien sûr, dès le départ, c'était évident, mais voilà, fallait que quelqu'un me l'avoue en fait, clairement, quoi.
Et alors, au moment où ça y est, tu comprends que c'est l'évidence et que tu vas garder ces trois enfants. t'es dans quelle étape?
Alors la première chose qu'on fait, c'est peut-être bizarre à dire, hein, mais on est parti directement sur les réseaux sociaux. chercher des parents, des témoignages de parents qui vivaient ou qui avaient vécu déjà ça. Et en fait, on est tombé plusieurs fois sur une photo d'une maman de Copenhague qui a un ventre, mais alors XXL, toute menue, de grossesse stricte, donc qui est, faut dire, faut bien se l'avouer, qui est pas, c'est pas joli au premier abord, quoi. Et je me dis, mais non, quoi. Enfin, non, je veux pas ça, quoi. Oh, je vais pas y arriver. Enfin, comment elle a fait? Et puis en fait, plus on allait dans les témoignages, et puis on voyait des bébés qui étaient prématurés, donc tout petits, qui pouvaient naître des fois à la limite en fait de la viabilité. Donc moi, ça m'effrayait énormément parce que je me suis dit, j'ai pas connu ça en fait avec les deux premiers. C'est des bébés qui sont arrivés à terme. Donc est-ce que je vais avoir le mental pour arriver à supporter ça, quoi? Et en fait, on voit aussi d'autres témoignages où c'est des enfants qui, même au contraire, naissent bien après, en fait, finalement, les statistiques pour des triplés. Et on s'est dit, bah non, mais on va y arriver. On va y arriver. De toute façon, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Ils sont là, ils sont arrivés là, donc on y arrivera. Et en fait, le mental, ouais, je pense, joue pas mal. Où on se dit, bah même si le physique, il est un peu fatigué parce que je suis tombée malade les trois premiers mois, même les quatre premiers mois. Donc je vomissais toute la journée, donc je prenais pas beaucoup de poids et les triplés me prenaient beaucoup d'énergie. Donc j'étais très faible, j'avais la peau grisée, j'étais tout en noir sous les yeux. Donc j'étais vraiment pas bien. Et en fait c'est vraiment le mental qui prend le dessus, on se dit bah non, c'est hors de question que ça s'arrête, enfin que j'accouche tôt, j'irai jusqu'au bout et puis voilà quoi. C'est dans l'optique au départ on était comme ça quoi.
Et alors, t'as eu quoi comme suivi?
Alors, au départ, bah, mon gynécologue m'a dit, on va se voir une fois par mois. Donc, tous les mois, on se verra, on fera un bilan, et puis on regardera l'évolution, en plus des échographies obligatoires, etc. Enfin, des rendez-vous obligatoires d'une grossesse, quoi. Et, il en revenait pas à chaque écho. C'est-à-dire qu'à chaque échographie, il disait, mais je comprends pas. Comment ils peuvent évoluer comme ça? Parce qu'ils évoluaient comme s'ils étaient tout seuls. C'est-à-dire que, c'était des bébés qui avaient pas l'impression d'être trois. Ils étaient là, bah moi, voilà, on est le quatrième du mois, je fais 2 kilos, c'est normal. Enfin, ils comprenaient pas. Ils ont la place, ils évoluent super bien. Ils ont tous une taille parce qu'ils disaient, voilà, chez les triplés, souvent il y en a un qui trinque, qui est plus petit que l'autre, ou alors qui prend la part de l'autre chez les jumeaux, etc. Parce que les filles, elles avaient leur propre poche. Mais à partage dans une grande poche, donc pour le bazar, avec un placenta pour deux. Donc le risque, c'était surtout qu'en fait une des filles, enfin que les filles se transvasent le sang en fait. Et donc là, c'était un danger. Donc là, c'était forcément accouchement prématuré si c'était le cas. Donc ça, c'était un contrôle régulier et où ils vraiment, voilà, ils mettaient l'accent là-dessus. Mais sinon, en fait, pour tout le reste, Noam qui était tout seul dans sa poche, lui évoluait. Mais alors. Épouse, hein. Lui, c'était moi, mes sœurs, c'est pas grave, moi j'évolue bien, je suis en bas, je suis tranquille. Donc, ouais, une évolution qui, tous les mois, en fait, était dingue. Et en fait, arrivé à 30 semaines, c'était vraiment les 30 SA, c'était pour le gynécologue le point, là, au minimum où il fallait arriver pour qu'il n'y ait pas de soucis pour les enfants. Alors, quand on a atteint ce palier, on était trop contents parce qu'on s'est dit, ça y est, on a moins de stress, la fatigue est carrément là, mais là au moins le stress est parti. Et en fait à 32, ils voulaient m'accoucher parce que j'avais le col qui était ouvert à 1 et qu'en fait quand il simulait une contraction, ça s'ouvrait. Donc il avait très peur en fait que je me retrouve à accoucher en fait soit chez moi, soit dans l'hôpital qui était à côté de chez moi mais qui était pas prévu pour des bébés prématurés. Donc ça l'effrayait, donc il voulait soit m'accoucher, soit m'hospitaliser jusqu'à la fin. Et moi c'était juste pas possible, je pouvais pas abandonner mes deux grands qui avaient besoin de moi et moi je suis très famille donc je me voyais pas vivre ça en plus sous confinement dans un hôpital où je pourrais pas voir mes enfants, ni mon mari, ni ma famille alors que moralement c'était déjà bon. Un jour ça allait, un jour j'étais au fond du trou, puis j'étais trop contente. Enfin, voilà, j'avais des sauts d'humeur qui étaient incroyables. Donc je me suis dit non, faut que j'aille jusqu'au bout. On m'avait dit c'est quoi le maximum pour des triplés? On m'a dit c'est 36. Ah, je dis j'irai à 36 alors. On m'a dit mais vous allez en chier, hein. Il va falloir vous le dire, ça va être dur. Mais je me suis dit mais c'est pas grave. Il faut que j'aille jusqu'au bout parce que c'est hors de question que je me retrouve loin d'eux parce que j'avais qu'une peur, c'était qu'ils soient hospitalisés et que moi je rentre. Donc on poussait en fait à chaque fois les semaines parce que chaque semaine de gagner, c'était forcément mieux pour les bébés. Donc en fait, chaque fois, une fois par semaine, on m'amenait à l'hôpital, enfin mon mari m'emmenait à l'hôpital de Vannes, donc c'est à peu près à 1h15, 1h20 de chez nous, donc ça fait quand même beaucoup de route. Et enceinte de triplé dans la voiture, c'est très dur, c'est très éprouvant physiquement. Et du coup, on faisait une écho de contrôle et à chaque fois, ils nous disaient « Bon, bah, vous voulez faire quoi ? Bah, je rentre. Bah, vous êtes sûr ? Je rentre chez moi. » Donc, on faisait ça jusqu'à la fin. Et en fait, à 34 semaines, il m'a dit « Bah là, par contre, je suis désolée, mais faut que je vous hospitalise, faut que j'ai un contrôle, faut que j'ai un suivi sur vous. Au moins, bah, pour avoir la main sur vous si jamais il se passe quelque chose, quoi. » Et donc, en fait, moi, j'ai dit d'accord, mais par contre, je veux une date de césarienne. Enfin, au départ, c'était une date d'accouchement parce que je voulais accoucher naturellement. On m'a dit que j'étais folle, mais je voulais accoucher naturellement. Ah oui. Bah, ouais, parce qu'en fait, comme c'est un hôpital universitaire, comme il disait, c'est beaucoup de jeunes, donc ils ont pas forcément les épaules pour vivre ça, sachant que déjà une grossesse triple naturelle, c'est pas très fréquent. À ce stade-là, encore moins. Donc ils avaient un peu la trouille en fait que ça se passe mal et que ça se transforme en césarienne d'urgence quoi. Donc jusqu'au bout j'ai réussi à faire l'anguille en disant mais si ils sont tous tête en bas, on va le faire, je suis sûre que ça va super bien se passer. Et en fait comme par hasard quelques jours avant ils ont fait, ils se sont retournés dans l'autre sens. Donc bon là c'était cuit. Et là bah c'est un peu l'effondrement parce que moi je voulais pas être césarienne, c'était catégorique, j'avais tellement peur en fait qu'il y ait des complications que je voulais pas, mais bon j'avais plus le choix. Et donc en fait on m'a hospitalisée une semaine avant la césarienne et après du coup bah j'avais plus le choix. Je pouvais plus voir mes enfants, il y avait mon mari qui venait mais voilà, c'était compliqué parce qu'il avait le masque, il y avait toutes ces choses qui font que ça met des barrières quoi.
Du coup, pendant tous ces mois de grossesse, t'as vu ton corps se transformer. T'as commencé à publier aussi sur les réseaux,
ouais.
Justement des photos de ton ventre,
c'est ça.
Qui étaient impressionnants.
Ah ouais. Ah ouais, c'était dingue. Enfin, c'est vrai qu'en plus, pour avoir vu d'autres comptes de mamans enceintes de triplé, elles n'avaient pas forcément des ventres aussi volumineux que le mien. Et moi, en fait, à chaque fois qu'on faisait une photo en fait avec mon mari. Pour marquer le coup tous les mois, on se rendait pas compte qu'à quel point c'était impressionnant. En fait, c'est quand on regardait le avant-après, on faisait oh « Ah ouais, mais là, non, là, il y a un gros problème, là. Il y a quoi ? Il y a un truc qui s'est ajouté, t'as appuyé sur une pompe dans la nuit, il y a eu quoi ?» Et en fait, je me rendais pas compte que mon dos cambrait énormément et que j'avais beaucoup de poids parce qu'en fait, je prenais que dans le ventre. Je prenais pas de poids en plus que ce que j'avais dans le ventre quoi. Donc il prenait tellement en fait d'énergie que du coup bah en fait tout allait pour eux. Et donc c'est vrai que bah là je passais des journées entières à regarder mon ventre quoi. Je me disais oh, mais comment ça va revenir après ? Je comprenais pas comment c'était possible de retourner d'avoir un ventre plat ou quoi que ce soit après ça quoi, parce que je me suis dit mais il est tellement étiré. Je voyais pas de vergeture parce que le ventre était déjà à son maximum en fait de ce qu'il pouvait, j'avais l'impression de donner, et en fait tous les mois il était encore plus gros quoi. Donc je me suis dit mais ça va exploser, c'est pas possible. Et en fait j'avais pas de ligne de grossesse non plus parce que en fait mon ventre était tellement écarté qu'en fait ça se transformait par des vergetures, mais des vergetures lisses et avec une peau tellement fine que dès qu'il y avait un pied ou une main qui passait, on la sentait en fait. Il y avait presque plus de peau entre ma main et leurs pieds ou leurs mains quoi. Donc du coup c'était vraiment très très fin et on n'avait qu'une peur, c'est que ça craque quoi, comme un ballon de baudruche quoi. Donc c'était la sensation était presque identique qu'un ballon de baudruche quoi. Donc ça ouais, c'est vrai que le corps pendant la grossesse a pris une dimension mais incroyable.
Ouais. T'as eu peur toi de l'après?
Ouais, moi j'avais peur aussi, surtout au fait que bah faut dire ce qu'il y a, il y a le ventre donc il y a le poids. Donc Noam bah il faisait vraiment du poids sur le pubis, sur tout ça. Donc ça craquait aussi au niveau du pubis. Donc j'ai une vergeture qui va vraiment jusqu'aux petites lèvres en fait, tellement que ça tirait et écartait la peau. Donc je craignais qu'il m'arrive quelque chose de grave. J'avais peur pour mon sacrum parce qu'on m'a dit que voilà ça a plié une fois, ça peut replier deux fois, donc j'avais très très peur de ça. Les nuits étaient difficiles, je dormais sur les côtés, je pouvais pas dormir sur le dos, j'avais l'impression d'être une tortue, donc j'avais l'impression que j'allais me faire étouffer par mon ventre. Enfin c'était devenu j'avais l'impression d'être habitée par autre chose quoi. Je me suis dit c'est plus à moi quoi, ça m'appartient plus. Donc, je vivais ça un peu à côté des choses, quoi. J'avais pas cette sensation, en fait, que ça m'appartenait, quoi. Ce ventre appartenait au bébé et c'était leur maison et moi, j'étais là, coucou. Je vous fais juste un petit coucou par la fenêtre, mais voilà, ça s'arrête là. Donc, quand je suis arrivée à la césarienne, j'étais morte de trouille parce que fallait que je m'allonge sur le dos et je voyais pas comment c'était possible. Et c'est avéré qu'ils voyaient bien que j'y arrivais pas parce que même eux ils étaient impressionnés la semaine juste avant où je suis, avant la césarienne, dans mon dos ils discutaient entre eux en disant mais oh, vous avez vu son ventre, oh là là, mais il y en a combien, enfin pour eux c'était fou quoi. Quand je marchais c'était Moby Dick, hein, c'était je marchais, tu mettais en fond sonore la danse des canards quoi, je marchais sur un pied, j'avais même plus de rythme, c'était n'importe quoi, enfin mes pieds c'était Bigfoot alors que j'avais l'impression d'avoir des tout petits pieds, au final mes pieds ils avaient triplé de volume, enfin c'était c'était n'importe quoi. Et en fait à la césarienne on me dit bah vous allez vous allonger sur le dos, je dis bah bon courage parce que moi ça fait 3 mois que je peux plus, donc j'y arriverai pas. Et donc on m'allonge et j'avais l'impression que tout mon ventre revenait vers mon visage quoi, tellement que ça m'étouffait en fait. Donc je commence à sentir des nausées mais importantes qui remontaient alors que j'avais rien subi encore. Et j'étais vraiment pas bien. On m'a dit bon, on va incliner le plan en fait de manière à ce que vous soyez légèrement de biais pour que vous vous sentiez bien, parce que c'est pas la peine. Sinon, si vous vous sentez pas bien, ça va être très long quoi. Donc j'ai eu cette chance où ils m'ont incliné le plan et donc je me sentais quand même un peu mieux. Après, je pense qu'il y a eu les médicaments pour contrebalancer aussi les nausées, etc. Parce que j'avais vraiment très très envie de vomir dès que je me suis allongée sur le dos. Et en fait, complètement fou. Mais c'est là que tu te rends compte que le ventre c'était vraiment une poche quoi, parce qu'en fait quand ils ont enlevé Noam j'ai rien senti parce qu'il était en bas et que voilà, lui il avait fait sa petite place, mais Maddy elle était sous mes côtes et Chloé était complètement recroquevillée sur le côté en dessous mes côtes. Et en fait quand ils ont enlevé Chloé j'ai eu la sensation que mon corps en fait de lui-même s'était soulevé quoi, que mon dos s'était relâché comme si on lui avait enlevé un poids quoi. Enfin c'était tellement impressionnant et je respirais quoi. J'ai pris une bouffée d'oxygène et j'ai regardé l'équipe médicale en disant mais je revis quoi. Je revivais à ce moment-là quoi. Alors j'avais l'impression d'être en apnée depuis des mois quoi. Et donc quand ils ont enlevé Maddy, c'est pareil quoi. Ça m'a fait une sensation de vide mais tellement impressionnante alors que pourtant j'étais anesthésiée. J'avais l'impression de respirer quoi. C'était incroyable. C'était incroyable. Mais c'est vrai que quand les bébés sont plus dans le ventre, c'est très bizarre. Ça fait très 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 bizarre parce qu'on a l'impression qu'on est enceinte encore. Déjà parce que c'est une césarienne et pas un accouchement classique, donc on vit pas les choses pareilles. Pour celles qui ont vécu des accouchements naturels avant une césarienne, je pense que n'importe qui pourra dire que ça n'a rien à voir. Et moi, je le vivais pas bien du tout parce que je me suis dit on m'enlève mes bébés et je suis en train de vivre. Je vivais pas mon accouchement quoi. Je savais quand ils allaient naître, à quel moment, et c'était, il y avait pas cette magie comme on disait avec mon mari, il y avait pas cette magie, cette attente des premières contractions, de quand il faut y aller, faut pas y aller. Alors que là, on savait voilà à telle heure le lendemain ils étaient là quoi. Et ça faisait très bizarre quoi.
Et alors comment on accueille trois bébés, trois nouveau-nés dans ses bras ?
Déjà, ce qui est impressionnant, c'est l'équipe quoi, parce qu'il faut une équipe conséquente pour accueillir tous ces bébés. Donc déjà, il y a des masques parce que voilà, avec le Covid, on voit que des blouses et des masques. Donc on a l'impression de voir les mêmes personnes toutes les deux secondes, alors qu'en fait c'est une fourmilière, ils sont au moins 15 à passer toutes les deux secondes. Donc moi j'ai pleuré quand j'ai entendu Noam. À pleurer, mais alors ça a été très furtif. Chloé, mes souvenirs sont en train de s'envoler là-dessus, mais Chloé, je me rappelle que elle a pleuré et ça a été très très bref aussi. On me l'a montré, mais enfin même pas. Enfin, elle s'est envolée comme ça. Maddy, elle a pas pleuré et pour moi, ça a été la panique. J'ai dit à mon mari, elle pleure pas. Et comme je savais que c'était la dernière enlevée. J'étais très stressée parce que je me suis dit, si ça se trouve, elle a subi le choc de la césarienne ou quelque chose comme ça, donc j'étais pas bien. Mon mari voulait rester auprès de moi alors qu'on l'appelait pour aller voir les bébés. Et je lui dis, non, vas-y, va les rejoindre, ils ont besoin d'avoir une oreille, enfin un bruit, quelque chose qu'ils connaissent plutôt que toute cette équipe qui les connaît pas, qui les a jamais vus et qu'ils aient au moins en départ de leur vie leur papa qui est là quoi. Donc il est parti et donc là je me suis retrouvée toute seule dans cette vraiment ce froid, c'est stérile, il y a plus un bruit, ils sont en train de me recoudre et moi je suis là, j'attends que ça se passe et c'est triste quoi. C'est un moment qui est pas joyeux quoi.
Donc là, tu n'avais pas vu tes bébés?
Non, je les avais pas montrés. On ne les a pas montrés, ils sont partis tout de suite. Donc, je ne savais pas si ça allait déjà. Je ne savais pas combien ils pesaient. Il y avait eu une estimation, mais bon, voilà, c'était pas... C'est comme ça varie de 200 grammes, 300 grammes. Je me dis, pour des triplés, pour des bébés qui sont pas arrivés à terme, ça peut être énorme. Donc, je ne savais pas comment ils allaient. En plus, on m'avait expliqué qu'ils pouvaient avoir une insuffisance respiratoire au départ. Donc, ils pouvaient être amenés à avoir besoin d'aide en respiratoire, etc., et que j'allais peut-être probablement pas les voir du coup tout de suite quoi. Donc de les voir peut-être que 2 heures ou 3 heures après. Donc déjà ça me mettait presque impensable de me dire voilà, je les ai portés 8 mois et je vais pas les voir. Des gens qui ne les connaissent pas vont les voir avant moi. Donc sur le moment, je commençais à avoir une bouffée de tristesse qui m'envahissait, mais en fait la fatigue prenait le dessus. Donc j'étais tellement fatiguée que je contrôlais plus trop ce qui m'arrivait. Et en fait, d'un coup, ils sont tous arrivés, en fait, les bras avec les 3 bébés dans la salle. Et j'y croyais pas, quoi. Je me suis dit, c'est dingue, ils sont arrivés avec Noam en premier. Donc, sa petite bouille toute fermée, éblouie par le champ anesthésique, la lumière blanche, etc. Et j'avais les bras attachés, parce que quand on a une césarienne, on a les bras attachés. Et donc, ce que je trouve aussi très très dur, mais bon, voilà. On me détache les bras, j'ai le masque aussi, parce que du coup, bah, on a un masque hein, quand on est aussi césarisé. Et en fait, on me dit, ah c'est bon, j'entends une voix qui dit, c'est bon quoi, c'est la maman, enlevez-lui ce masque, quoi, qu'elle puisse toucher son bébé, l'embrasser, enfin... Enfin, en gros, laissez-la respirer, quoi. Et donc, à ce moment-là, bah, je pleure, mais alors que pourtant, pour mes 2 premiers, j'ai pas pleuré. Pour eux, je pleure parce que je me rends compte en fait de ce que je vis. En fait, je les vois là et ça me paraît énorme en fait de voir 3 bébés. Là, ils sont derrière moi. On prend en photo, on nous prend en photo tous les 5, ce qui paraît énorme. Et on nous dit félicitations, ils sont magnifiques et puis ils sont beaux aussi. Ils sont grands, ils sont bien en chair, ils sont tout roses, ils vont bien. Et c'est là qu'on se rend compte en fait. On les a imaginés parce qu'en plus les échos en 3D chez des triplés. C'est quasi mission impossible. Donc moi, j'ai même pas vu à quoi ils pouvaient ressembler à la naissance. Donc c'était une réelle découverte en plus de les voir. Donc c'était vraiment un moment un peu hors du temps, quoi, où on est figé et on a envie de vivre ça à fond. Et après, c'est très bref parce qu'il fait froid et il faut vite aller les réchauffer. Mais comme je m'étais préparée à l'idée de pas les voir avant au moins 2 ou 3 heures, c'était vraiment génial, quoi, de pouvoir les avoir là tous les 3, quoi.
Et alors là, j'imagine que le sujet de l'allaitement...
On m'a posé la question, j'ai dit non, franchement, c'est pas que je veux pas, parce que c'est vrai qu'on s'était reposé la question pour un 3e, et je m'étais dit pourquoi pas, bon, c'était triplé, non. J'avais pas envie de tenter l'aventure, sachant que en plus de ça, il y en avait quand même 2 avant, il y avait 2 enfants avant, donc allaiter des triplés, je me suis dit, mais... à quel moment je vais m'occuper des grands, quoi. Enfin, si en plus de ça, je passe mon temps à allaiter, ils vont le sentir que j'ai plus de temps pour eux. Donc ça va être aussi un crève-cœur. Et non, je pouvais pas, quoi. Donc l'allaitement, c'était proscrit dès le départ, quoi.
Donc là, t'es restée combien de temps à la maternité?
Alors, j'aurais pu sortir très vite, puisque de toute façon, quand j'ai accouché à 9h41, 42, 43. J'adore dire ça, chaque fois ça me fait triper. Mais... Et du coup, je suis revenue en chambre, il était 13h. On m'a dit que voilà, j'avais une sonde urinaire, etc. Que plutôt, on m'avait expliqué que plutôt on se lève et mieux on récupère après une césarienne. Alors, comme j'ai un mental un petit peu de... en fait, je suis douillette, mais quand on me dit, voilà, ça va vous faire mal, j'avais pas envie, donc je me suis dit, bon, je me lèverai le plus tôt possible. Je me suis levée à 17h. Donc j'ai demandé à me lever pour on m'a dit bah par contre ça va faire mal. J'ai dit bah c'est pas grave mais moi faut que je voie mes bébés, je veux m'en occuper machin. Et en fait mon mari il était dans la chambre en fait avec les triplés et ça c'est pour moi c'était pas pareil. Je pensais qu'ils allaient aller en néonat mais non en fait j'avais mes 3 bébés dans ma chambre de maternité donc déjà c'était fou. Et donc en fait je me suis levée très tôt et donc c'est ce qui m'a permis aussi de me remettre assez vite. Donc au bout de 5-6 jours, on m'avait dit que je pouvais rentrer chez moi. Mais bon, étant donné qu'il y avait les triplés, je restais avec eux et donc j'étais en unité kangourou où là on reste environ 12 jours. Sauf que voilà, après bah si eux ils ont besoin de rester, ils remontent en néonat et moi je sors. Donc moi j'avais pas envie d'en arriver là. Donc du coup, sachant que Noam avait besoin de rien, pas besoin de chauffer, pas besoin de sonde alimentaire. Lui, il était prêt à sortir comme moi, en fait, partir à peu près au même moment. Mais les filles, elles, avaient besoin d'aide pour s'alimenter parce qu'elles savaient pas téter. Parce que justement, quand on est dans le ventre de sa maman, on apprend à déglutir, à téter quand on a à peu près vers 36 semaines, 37 semaines qu'on m'a expliqué. Donc du coup, forcément, c'est pas quelque chose qui est acquis. Et donc les filles avaient besoin de temps. Et moi, ça, j'avais du mal à le vivre parce que je les voyais avec un fil qui était directement relié à leur estomac, nourri par une sonde. Enfin, je trouvais ça très violent. On leur apprenait à boire, alors on les gavait comme des oisillons en train d'appuyer sous la gorge pour apprendre à déglutir. Enfin, je trouvais ça violent en fait, sachant que c'est tout petit, ils font à peine 45 cm, ils font des petits poids, ils sont tout fragiles et on a l'impression que c'est des poupons, ils sont en train de les manipuler comme ça. Et en fait, au final, ça a été vraiment des warriors, ces petites-là, parce qu'au bout de 8 jours, m'a dit, qui est pourtant la plus petite en poids, elle faisait 1,990 kg à la naissance. Au bout de 8 jours, elle a dit ouais, stop, ça me saoule votre sonde, là enlevez-moi ça, je veux le biberon. Donc elle a compris. Et au bout de 6 jours. Et Chloé, elle avait pas du tout envie. Et donc en fait, moi j'étais en mode dépression totale parce que je la voyais mais pas faire comme les autres. Et on me disait mais on faut pas les mettre tous les trois dans une case parce qu'ils évolueront jamais pareil quoi. Et en fait, elle a capté au bout de 10 jours le truc, mais comme ça. Elle avait arraché sa sonde déjà 5 fois, donc on lui a remis une sonde déjà 5 fois. Je trouvais ça hyper violent. Et en fait, à la 5e fois, on m'a accordé un droit de visite de mes enfants, des aînés, pour qu'ils viennent parce que j'étais vraiment au fond. Ça faisait 15 jours que je les avais pas vus, donc j'étais vraiment pas bien. Et on m'a accordé le droit de venir les voir parce qu'on savait pas quand est-ce que les triplés allaient sortir. Donc ils voyaient bien que là, ça commençait à être long. Et en fait, comme par hasard, ce jour-là, Chloé a enlevé sa sonde et en fait, ça a été le jour terminé et le surlendemain on sortait tous les 5, donc tous les 4, tout, bah Tony était rentré mais tous les 4, donc ça c'était magique, c'était genre la surprise, la petite cerise sur le gâteau. Chloé avait tout déclenché quoi.
Et toi, t'étais rétablie physiquement?
Alors, j'avais toujours mal, hein. Ouais, j'avais encore cette barrière là, cette sensation d'être coupée en deux avec la césarienne qui faisait que je luttais contre moi-même en permanence avec des cachets pour tenir debout, mais c'était pas concevable pour moi de me plaindre alors qu'il y avait 3 petits bouchons là qui étaient là et qui avaient besoin de moi. Donc en fait, j'allais vraiment à contrario de ce que je vivais parce que je suis de nature douillette et donc j'aurais été oh j'ai mal, j'aurais été à me plaindre toute la journée et là j'avais juste pas le droit. Pour moi, j'avais pas le droit de me plaindre. Donc ouais, j'ai eu mal en rentrant, j'avais toujours mal en rentrant, mais au moins j'étais debout quoi.
Donc là, tu te retrouves à la maison, 5 enfants, des triplés.
Franchement, c'est compliqué parce qu'on perd tous ses repères. Quand on a 2 enfants, bon bah voilà, hein, c'est une affaire qui roule. Mais quand on a 2 plus 3 et qui en plus demande beaucoup de temps, on est un peu perdu sur le début. On fait que ça parce que c'est des biberons toutes les 3 heures, donc on a l'impression qu'on fait que ça. On change, on donne des biberons, on rechange, on donne des biberons et en fait on est crevé. Donc le peu de temps qui nous reste, on le passe à essayer de justement de le donner aux 2 grands, mais en fait on s'épuise, donc on est tellement fatigué. Il y a la maison en plus à faire tourner, donc il faut le linge, faire à manger. Donc on s'est dit si on se noie maintenant dans tout ça, on n'y arrivera pas. Donc en fait on s'est imposé un rythme, on était très fatigué, mais on s'est dit on veut pas d'aide, on veut personne à la maison, on veut y arriver tout seul. Donc avec mon mari, on s'est organisé dès le départ en se disant bah voilà, on va se répartir les tâches. Il va falloir qu'on se relaie, il y en a un qu'il faut qu'il dorme, l'autre doit dormir et puis l'autre attaque, on va gagner du temps comme ça. Enfin voilà, on optimisait tout et on s'organisait pour tout, pour au moins être cadré pour pas laisser place au bazar quoi. Mais le départ était très dur parce que déjà Alissa, c'est la petite dernière et donc là elle était un peu ok, donc là ma maman elle est rentrée, en plus de ça elle s'occupe pas de moi, elle peut pas aller jouer avec moi dehors, elle peut pas courir, on peut pas faire de vélo, on peut rien faire, donc déjà elle ça l'embêtait et donc elle faisait des crises, des caprices, des bêtises, des choses qu'elle faisait pas avant, donc moi j'étais un peu envahie par je dois gérer ça et en même temps je dois gérer 3 bébés et je dois gérer l'aîné qui a besoin de moi aussi, donc j'étais un peu submergée. Et en plus de ça, pour un papa, qui peu importe si c'est des triplés, jumeaux ou triplés, pour eux c'est pareil. Donc le congé c'est le même. Enfin maintenant ça a changé, mais avant voilà c'était comme ça. Donc il fallait qu'on s'organise très vite parce qu'après je me retrouvais du jour au lendemain toute seule avec 5 enfants quoi. Donc il fallait être organisée tout de suite. Et donc en fait ce retour à la maison, ça a fait que du coup des fois il partait 2-3 heures en ville et moi je restais avec les enfants et j'essayais de voir si je gérais ces moments-là. Donc on allait par palier, 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, et puis après on se jetait dans la gueule du loup, quoi. Il repart travailler, donc maintenant faut que t'assumes, faut que tu gères, t'en as 5 et ils sont là pour s'en occuper, quoi. Donc on apprend, on s'organise, et en fait faut s'organiser, sinon on se fait manger, quoi.
Ouais. Toi tu bossais pas, du coup t'as pas repris
J'étais en congé parental en fait au moment où je suis tombée enceinte du coup des triplés. On s'est dit que ça tombait bien parce qu'au moins il y avait pas trop d'écart entre Alissa et le troisième, enfin les trois petits troisièmes pour le coup. Donc on se disait ça tombait très bien comme ça, au moins pas trop d'écart, c'est chouette. Et en fait c'est pas si évident que ça en fait, parce que tu te rends compte que quand même quand il y a 4 ans d'écart, ils se gèrent quand même plus facilement seuls que quand il y en a en l'occurrence 3 ans, même pas 3 ans. Donc Alissa elle a 2 ans et demi d'écart avec des triplés. Donc on se dit c'est pas facile parce qu'on a encore un bébé à la maison à porter des couches, donc il y avait aussi les couches de la grande à changer, donc voilà. Et c'est pas forcément évident, mais il faut voilà. Et puis après le boulot, on s'est dit non, c'est pas possible, on peut pas reprendre le travail avec autant de charges à la maison, déjà de travail au quotidien avec la maison et aussi avec les enfants, quoi. Ça aurait été trop compliqué à gérer, donc j'ai pris dans la foulée un congé parental, quoi.
Et alors, ce rapport au corps suite à...
Ça a été un électrochoc. C'est quand je me suis levée à la maternité, de regarder son ventre dans le miroir, parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler une fois qu'il n'y a plus de bébé dedans. On regarde et on se dit « Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, en fait, on a l'impression d'être encore enceinte, comme je disais. Et les jours continuent et en fait, on a toujours cette masse qui est devant soi. Et on se dit « Mais... Oh » Comment ça va, ça peut pas revenir, ça reviendra pas en place, quoi. Et en fait, au début, j'avais pas l'impression, enfin, ça m'a jamais dégoûté ou déplu, mais en fait, pour moi, ça m'appartenait pas encore. Ça appartenait encore au bébé, et en fait, je voyais pas ça comme mon ventre, mais comme le leur, quoi. Donc, j'avais vraiment encore cette distance avec ça. Et en fait, quand il y a eu la rééducation abdominale et qu'on a commencé à me parler, en fait, d'abdominoplastie, de diastasis, des grands droits. Là, j'ai dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Faut qu'on m'explique ce que c'est. Et donc, en fait, elle me dit, c'est l'écart en fait des muscles, des grands droits, donc les abdominaux centraux, qui s'écartent pendant la grossesse pour laisser place au bébé, et qui en fait, naturellement, dans tous les cas, revient à la normale quand on a accouché au fur et à mesure du temps. Ok. Sauf que dans votre cas, vous avez eu des triplés et un ventre anormalement gros. Donc vos muscles, vos grands abdominaux se sont tellement écartés qu'ils reviennent pas à leur place. Donc ça nécessitera, si vous faites pas le nécessaire maintenant, ça nécessitera une opération pour les rattacher, quoi. Et je me suis dit je pensais quand même pas à ce point-là. Enfin, en fait, on m'a expliqué que là, d'un coup, j'avais plus intérêt de porter autre chose que mes bébés parce que je risquais la descente d'organes, je risquais l'éventration. Et moi j'étais là, mais oh là là, grosse panique, gros, enfin vraiment la stressée à bloc. Je me suis dit, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ça, la descente d'organes? C'est-à-dire, vous allez entre vos jambes, vous allez sentir vos organes, quoi. Bon appétit bien sûr. Donc je me dis, génial, ça va être sympa. Donc on se dit faut jouer le jeu à fond et faut écouter ce qu'on te dit, et puis faut pas porter, faut pas faire du sport, Donc la seule chose que j'avais à droit de faire, c'était la rééducation par le souffle, donc avec une machine exprès et des électrodes qui me permettaient de gérer mon souffle, parce que j'en avais plus non plus, quoi. Parce que en fait, on se rend pas compte, mais quand on parle, on contracte. Peu importe ce qu'on fait, on contracte, on conduit, on contracte, et en fait moi j'arrivais pas. Je pouvais pas contracter ces muscles-là et je souffrais le martyr, et j'étais essoufflée en 2 mots. Je pouvais même pas lier une phrase sans être essoufflée. Donc c'était très dur, et je me suis dit, il faut que je joue le jeu, faut que je suive cette rééducation. Et en fait, c'est là que j'ai eu ce rapport avec le corps où je me suis dit, c'est mon corps, c'est clair et net que là il faut que je me prenne en main. Mes bébés, ils sont là, ils sont en bonne santé, mais moi ma santé, elle est autant importante. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, et en fait je me regardais, je me dis waouh, c'est ça a apporté quand même 5 enfants. Là ça va bien, je me sens mieux. Je me regardais dans le miroir, je voyais qu'il y avait plus ce gros ventre, où je voyais même plus je voyais plus mon pubis, je voyais plus rien avant, donc c'était juste une grosse masse devant moi. Et là, en fait, je me disais, bah, je retrouvais mon corps de femme, et en fait, je ne voyais pas mon corps comme quelque chose de sale ou sali ou abîmé, je le voyais vraiment comme quelque chose de valorisé, qui avait porté la vie trois d'un coup, et qui pouvait être fier, et qui vraiment, je n'avais plus qu'à le remercier d'avoir fait ça, quoi. Et je ne me voyais pas lui dire, bah, t'es moche, tu vas aller sur une table et on va t'enlever, on va te scalper toute la partie haute parce que t'es plié, t'es plissé, et c'est pas dans les stéréotypes des magazines et des vidéos et de tout ce que tu peux voir. Donc, je me dis, bah non, je ne peux pas faire ça. J'ai porté quand même des triplés. Mon corps, il a tenu jusqu'au bout et je peux pas faire ça, quoi. Et donc en fait, mon mari me trouvait très très belle et il trouvait mon ventre très beau et il me disait, bah t'as porté la vie et tu l'as amené jusqu'au bout, tu les as amenés jusqu'au bout, donc ça sert à rien de faire ça, ça servira à rien. Et clairement, il avait raison et je le savais depuis le départ que je m'aimais encore plus comme ça parce que j'étais trop fière, mais j'étais vraiment trop fière, quoi.
Il ressemble à quoi aujourd'hui ton ventre ?
Alors moi je l'appelle Blob Blob. Il me fait penser à une petite gelée. Enfin, il me fait marrer en fait. Enfin, j'adore mon ventre parce que je l'étire, on dirait du chewing-gum. Enfin, tu peux jouer avec, les gosses ils se marrent dès que je fais l'imbécile avec. Tu leur colles deux stickers, on dirait un bonhomme de cartoon. Enfin, en fait, je me dis c'est carrément plus amusant comme ça. Et en fait. Bah les enfants quand ils verront ça, quand ils vont grandir, enfin je sais que je suis la première image en fait pour eux, pour leur dire bah aimez-vous quoi. Si on commence à dire ah là là j'aime pas ça, oh là là 3 kilos ça fera toute la différence, et ben eux ils entendent ça et en grandissant ils se disent bah maman elle a raison, faut faire 50 kilos, faut être comme ça, faut être parfait machin, alors que là en leur montrant que bah ouais le corps il évolue avec les grossesses, quand on est une femme, quand on est un homme, et bah il faut aimer son partenaire parce que il a assez donné pour sa famille, bah je pense que c'est des valeurs que j'ai inculquées et qu'ils apprécient parce que ça, ils ont pas de dégoût quoi, ils sont pas dégoûtés parce que mon ventre est plissé et pour eux c'est normal quoi.
Et du coup, t'as publié aussi des photos de ton ventre, ouais. Et des critiques, je crois.
Ouais. Bah, j'ai toujours, bah, après, voilà, les réseaux sociaux, c'est une porte ouverte, de toute façon, à la critique facile. Et puis, il faut savoir aussi tout entendre. Enfin, après, voilà, faut pas s'arrêter sur tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit. Mais c'est vrai que les critiques, elles sont pas viables quand on vous entend que c'est à vomir ou que, enfin. Ok, enfin j'ai envie de dire c'est pas de la merde non plus. En restant voilà poli parce que je pourrais dire bien plus salement des choses, mais je pense que la personne elle est dans la rue, elle te regarde, elle voit ton ventre, elle va pas te dire t'es à vomir parce qu'ils auraient pas les épaules ni la force de te le dire en face. Donc les réseaux c'est trop facile en fait pour dire tout et n'importe quoi. Et en fait moi je me dis bah les réseaux c'est aussi une bonne manière de partager à large échelle. Le naturel, la réalité des choses, et donc c'est vrai qu'en postant régulièrement des photos de blob de même comme je disais de mes petits plis, de des poids de grossesse qu'on garde, etc., des vergetures, c'est des choses qui sont naturelles. Enfin, je vois pas pourquoi on devrait les gommer, alors que c'est quand même grâce à tout ça qu'on a réussi à tenir nos enfants 9 mois, qu'ils sont en bonne santé et qu'ils sont là, quoi. Donc souvent les critiques en fait moi je les prends vraiment en second degré et souvent on en rigole avec mon mari, on les regarde et on rigole parce qu'on se dit oh, mais les gens sont fous, et souvent je suis obligée de bloquer parce que souvent certains abonnés ont envie de défendre mon compte ou la photo, etc., et ce que je trouve très gentil, mais ça n'a aucun intérêt puisque ils sont là pour casser du sucre et c'est tout, donc en fait ça n'a pas d'intérêt.
Ça t'atteint pas?
Non, pas du tout. Parce que comme je pars du principe que je sais ce que je vaux, mes valeurs, comment je suis, j'ai pas besoin de me remettre en question parce que les questions elles se sont déjà faites bien avant, quoi.
Alors comment ça se passe pour toi au quotidien là avec tes triplés? Ils ont quel âge?
7 mois là. Ouais. c'est sport. Faut dire que c'est assez sport parce que, et encore ça va être pire après. Mais on s'adapte en fait. Au final, on se rend compte que c'est de l'organisation certes, mais c'est aussi du mental parce que je pense qu'il y a des moments. C'est comme je suis comme tout le monde. Hein, on est humain. Il y a des moments où on est fatigué, où les cris c'est fatigant d'en entendre toute la journée. Quand ça crie dans tous les sens, c'est désagréable. Faut dire ce qu'il y a. Donc il faut une soupape. Il faut trouver un moment pour évacuer, pour sortir, même si c'est 5-10 minutes. on met de la musique, des écouteurs, quelque chose, il faut avoir quelque chose pour mettre de côté ce trop-plein, parce que sinon on peut exploser. Et moi, il y a des moments où je suis là, ouh, j'en peux plus, mais voilà, enfin, je pense que quand on en est deux ou trois ou même un seul, des cris, c'est trop dur, quoi. Donc trois, quand ils s'y mettent à trois, souvent je me dis, oh, allez, courage, ça va pas durer, on va attendre le goûter, une fois qu'ils auront mangé, qu'ils feront dodo, ça ira mieux. Enfin, c'est leur seul moyen de s'exprimer, donc de toute façon, je vais pas leur dire tais-toi. c'est comme si on me disait, bah, parle plus, tu nous casses les oreilles, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des moments qui sont difficiles, mais tant qu'on est organisé et qu'on arrive à relativiser, ça va, c'est quand même gérable.
Et le point de vue financier dont tu avais si peur, du coup, en prenant l'arrivée des triplés,
C'est gérable, mais comme on dit, les gens, ils ont tendance à dire, voilà, plus on fait d'enfants, plus on est tranquille financièrement, de toute façon, les aides, etc. De l'État font que les gens font des enfants pour être tranquilles. J'ai envie de leur dire, non, ça marche pas comme ça. On a cette chance, j'ai cette chance avec les réseaux de pouvoir représenter deux marques. Le lait et les couches, donc ça change énormément de choses à la maison avec trois bébés. Mais par contre, sur le reste, il faut les habiller, il y a le médecin. Là, ils sont petits, mais après ils seront plus grands. Il y aura les études, il y aura le permis, il y aura toutes ces choses qui font que on peut pas se dire on fait des enfants et puis on fait des enfants, quoi. Donc l'aspect financier, il est toujours dans notre tête parce qu'on se dit il faut mettre de côté. Parce qu'on roule pas sur l'or, on n'a pas des salaires de ministre, et donc si on a envie que nos enfants soient en sécurité et qu'on puisse les amener loin dans la vie, il va falloir se priver quand même un petit peu au jour d'aujourd'hui pour qu'ils soient heureux plus tard, quoi. Donc là, ça passe par le biais de la maison, où comme on est propriétaire, on pousse les murs pour qu'il y ait de la place. Donc ils aient chacun leur chambre, que ce soit confortable pour eux, parce que c'est pas parce qu'ils sont triplés que plus tard ils auront pas besoin de leur intimité. Donc ça passe aussi par ça. Donc on a mis un point d'honneur sur le fait que ils aient chacun leur chambre, pas encore parce qu'ils sont tout petits, mais à l'avenir ils en auront besoin. Donc c'est vrai qu'il y a ça, il y a la voiture c'est un gouffre financier. Donc dès qu'il y a un pet, on pleure, on se dit punaise, ça va nous coûter les yeux de la tête. Et sachant qu'on est 7, une voiture, plus elle est costaud, plus elle est grosse et plus c'est cher. Donc il y a toujours cet aspect financier qui est frais, où on se dit s'il arrive quelque chose, il faut qu'on ait des bagages, parce que sinon ça va être compliqué. Mais on a toujours été des brouillards et on a toujours su rebondir. De toute façon, nous, on adore faire compliqué. Alors, ça a toujours été comme ça. Mais faut savoir rebondir, parce que si on s'arrête sur des trucs, on vit pas. De toute façon, c'est sûr.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Clairement, je sais que c'est le rôle qui me convient le plus, quoi. Parce que je pense que quand on est jeune femme, on se cherche encore, on sait pas sur quel pied danser, dans quelle catégorie se mettre, parce qu'on cherche toujours à se mettre dans des cases. Et on veut être un peu comme si, on veut être comme quelqu'un, on veut être comme la personne d'à côté. Et en fait, au final, on se rend compte que ça sert à rien d'aller chercher plus loin que le bout de son nez. Le bonheur, il est là où on le crée, quoi. Donc du coup, je me dis, mon bonheur, c'est ma famille. Donc je me sens épanouie, mais à 100% en tant que femme et à 100% en tant que maman, parce que je sais que je vis tout à fond et que j'aurai rien à regretter, quoi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ça marche.
C'est quoi pour toi être une maman bretonne ?
Alors, être une maman bretonne, c'est une maman qui aime sa région déjà, je pense déjà en premier lieu, et qui porte fièrement les couleurs de la Bretagne. Parce que moi, je me dis, je suis née en Loire-Atlantique, mais je suis restée par amour pour un Breton. Donc clairement maintenant je suis mariée à la Bretagne et à fond là-dedans, donc être maman bretonne, je pense c'est aimer clairement sa région, quoi.
Quel est ton endroit kids friendly préféré?
Mon jardin, je crois. Le jardin est tellement immense, on a 1200 mètres carrés, on a un trampoline, une cabane dans un arbre que son papa leur a fabriqué, une piscine, enfin on a tout à proximité, que en fait on sait qu'on peut le moduler comme on veut. Nathan, il veut une piste pour ses petites voitures Hot Wheels, et papa va le faire. Enfin, de toute façon, c'est le jardin, c'est l'utopie.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et les projets prévus en famille ?
Alors, ça, c'était les grosses questions. Déjà, sur les réseaux sociaux, on m'a demandé justement mes projets. Donc, j'ai un gros projet cette année qui est encore un peu flou pour les autres, mais qui vont du coup se concrétiser, je l'espère. On est sur l'écrit d'un livre pour pouvoir montrer en fait en tant que couple ce qu'est de passer de 2 à 5 enfants. Et qui plus est des triplés, donc c'est vraiment un gros projet mais commun avec Papa Gaver, comme j'aime bien l'appeler. Donc ça, c'est vraiment le gros projet de 2021. Donc ça demande beaucoup de patience, beaucoup de témoignages, de gratter des lignes. Et après, ça va être se faire relire, amener le bon vocabulaire parce qu'on peut manquer des fois un petit peu de mots, de choses à apporter. Donc se faire relire et trouver une édition. On espère que ça puisse se faire pour pouvoir montrer vraiment à grande échelle que être parent, c'est chouette, mais il faut vraiment pas avoir peur si jamais ça doit arriver en tant que maman de te dire je veux un petit troisième et ça se transforme en quadruplé ou triplé. Ça se peut se faire, ça se gère et il faut pas avoir peur, quoi. Donc c'est un peu l'idée de 2021, et il y a sûrement d'autres projets à venir, mais cela je peux pas trop en dire encore, ça va venir, mais...
Et tes projets rien que pour toi ?
Là dans l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver une passion, me couper de ce truc de maman, de la maison, etc. Parce que j'adore être chez moi, je suis limite un peu casanière, j'adore en fait vivre dans ma bulle. Mais je me rends compte que j'aime faire plein de choses et je voudrais me trouver un truc à moi où c'est ma soupape, je pars une fois dans le mois ou quelque chose comme ça pour couper, quoi.
Merci beaucoup, Élodie.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Élodie, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 74 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.